Bonsoir. En effet, je suis ce soir en compagnie de Thierry Baudin-Hulin depuis Douarnenez. Et les mots d'azur, c'est parti. Bonsoir Thierry Baudin-Hulin.
Bonsoir.
Et un grand merci de m'accorder cet entretien ici à Douarnenez. Douarnenez, terre des confins, terre de poésie, terre de festival avec le festival de cinéma, cette année consacré au Brésil, précédé par le festival de la poésie La Baie des Plumes. À noter aussi le festival Bresque, plus précisément dédié à la traduction, qui est organisé par l'association Rhizome et qui se déroule en mars. Alors pour vous présenter Thierry Baudin-Hulin, je dirais que vous êtes l'auteur de deux romans, de recueils d'aphorismes et de poésie, et vous révélez ceci avec un clin d'œil que l'on imagine ébloui. Vous écrivez donc « Être né à Paris le jour où Youri Gagarine est entré dans l'espace, soit en avril 1961 ». Et vous êtes l'auteur de « Les Maritimes », qui a obtenu le prix poésie du livre insulaire à Ouessant en 2014, de L'Écrimoire, un récit coécrit avec Marie-Hélène Bahin, paru en 2015 aux éditions Lamourier. Auteur également de Un pur hasard, paru chez Lunatique en 2018. Auteur de Trajet Pérec en 2024, et l'on y reviendra en parlant de cette collection en hommage à Pérec que vous avez imaginée. Également auteur de Saisir les différences, paru aux éditions Pneumatique en 2023. Et enfin, auteur d'un recueil d'aphorismes poétiques, Deux, trois mots sans importance, paru aux éditions Lanskin en 2018. Vous êtes installé à Nantes. Vous aviez cofondé et animé avec quelques amis les éditions nantaises L'Escarbille, de 1997 à 2011, et vous êtes désormais à la tête des éditions L'Œil ébloui depuis 2013, avec à son catalogue des auteurs tels que Bernard Bretonnière et Isabelle Pinson, que nous avons déjà eu le bonheur et le privilège d'entendre dans cette émission. En tant qu'éditeur, vous allez à la rencontre d'auteurs et de textes qui vous touchent particulièrement. Nous allons donc explorer ces deux activités qui se rapportent à l'écriture et au livre, et pour commencer, nous pencher sur vos propres écrits. Mais avant d'aller plus loin, voici les informations qui concernent les activités de l'association Les Mots d'Azur. Il est hélas déjà trop tard pour vous faire part de l'annonce du festival du livre de Moissartou, puisqu'il s'est déroulé les 4, 5 et 6 octobre dernier. L'association Les Mots d'Azur y avait présenté 8 auteurs en dédicace et 2 performances, celle de Marion Lafage et celle d'Hélène Martinelli. Mais je peux d'ores et déjà vous annoncer la 59e soirée au château de Moissartou, qui se déroulera le 13 décembre avec le groupe Ezaka, et j'aurai l'occasion de vous le redire. Revenons à mon invité, Thierry Baudin-Hulin. Alors, on va se pencher sur ce livre intitulé « Les Maritimes ». C'est un livre dans lequel on se retrouve au cœur d'un paysage intérieur, un univers intime, au contact d'images et de paysages de côtes et de mers. Le livre est accompagné d'une quinzaine de linogravures signées Christophe Baudin-Hulin. Le texte d'introduction dit ceci. J'ai regardé la mer, du plus loin que je me souvienne, des heures, des journées, des années qui confinent à l'éternité. J'y ai trouvé une occupation, de quoi conjurer l'ennui et de l'occupation. J'en ai fait ma décision. Elle guérira ma peine. Dans son chancelant miroir, je me suis surpris à y verser mes larmes. J'y voyais plus qu'une émotion soudaine, la croyance à mes désirs. Et dans la revue de Poésie Verso, voici ce qu'on lit à propos de ce livre. Et j'ouvre des guillemets. Un livre étonnant, un livre intime et pour le coup un vrai recueil. Dans ses maritimes, Thierry Baudin-Hulin a rassemblé poèmes en vers et en prose, pages pour soi, notes prises sur le pouce, flèches aphoristiques, descriptions millimétrées, pas à pas d'une pensée, conclusion de réflexion. Le poète n'écrit pas comme on se confesse, comme on n'en finit pas de mourir à l'opéra, il est plutôt sarcastique à son encontre. Bref, précis. C'est ce qu'on appelle, je crois, un livre vie. Bel hommage, n'est-ce pas ?
Un hommage de Christian de Goutte, un poète que j'admire.
Et donc moi je m'arrête sur ce terme, un livre-vie. Alors un livre-vie, est-ce que la mer pour vous résume ce que la vie représente pour vous ? Est-ce un sujet de méditation inépuisable dans votre expérience ?
Elle a été présente, je vais mettre au passé je vous expliquerai pourquoi. Elle a été présente pendant toute mon adolescence jusqu'à un âge très très avancé. C'était un retour nécessaire et vital à chaque fois que je revenais ici à Douarnenez notamment. Alors je parle pas que de la baie de Douarnenez ou que de l'Atlantique dans les maritimes, il y a d'autres mers également, un peu de Méditerranée mais l'Atlantique est quand même bien présent et l'Atlantique plus particulièrement breton et finistérien. Et la baie de Douarnenez en l'occurrence a son importance énorme. C'est là où est mon enfance. C'est là que depuis que je suis né, je retourne tous les étés. J'ai passé les 20 premières années de ma vie quasiment deux mois par an à Douarnenez parce que ma grand-mère y avait sa maison et parce que à la fin mes parents y ont vécu leurs 25 dernières années. Et ce retour-là, il était toujours un retour à l'essentiel. La mère est extrêmement présente, elle est même omniprésente, elle est prégnante, elle guérit ma peine, ouais, c'est comme je l'ai dit dans l'introduction.
Alors j'ai précisé que les linogravures sont signées Christophe Baudin-Hulin. Si c'est pas indiscret, est-ce que c'est votre fils ?
Non, c'est pas mon fils, c'est mon frère. Christophe est mon frère. Très important que vous le signaliez parce que les maritimes sont publiés par L'Œil Ébloui. Quand j'ai créé la maison d'édition L'Œil Ébloui, les maritimes, c'est le troisième ouvrage. Et c'était absolument pas pour moi une évidence de, comment dire, s'auto-publier ou monter une maison d'édition en se publiant. J'ai envie de m'occuper des autres, c'est pourquoi j'ai monté une maison d'édition. Les textes des autres m'intéressent. Et c'était pas venu tout de suite que les maritimes soient publiées. D'abord, j'avais un troisième ouvrage et ça n'a pas pu se faire pour des raisons de droit. Et du coup, il me manquait un troisième ouvrage pour commencer. Et très vite, je suis tombé un peu, ou en tout cas, on m'a encouragé à publier le maritime qu'un certain nombre de gens autour de moi connaissaient. Mais par contre, je pouvais pas le faire tout seul, quoi. Je voulais inviter quelqu'un et j'ai invité mon frère qui fait des linogravures. Donc, je sais aussi que le paysage maritime et notamment Douarnenez sont importants, sont aussi vitaux que pour moi. Donc, je lui ai proposé de participer à l'aventure et j'avoue que du coup, j'ai pu y aller parce qu'il était là, lui. S'il n'avait pas été là, je ne l'aurais pas fait.
L'énigme Christophe Baudin-Hulin étant élucidée, est-ce qu'on peut entendre lire un extrait de ce livre pour que les auditeurs puissent en saisir et le ton et l'ambiance ?
Un texte assez court, c'est que quand la baie de Douarnenez a une particularité qui est, on l'a comparé à la baie de Naples pour te dire, elle a une particularité, c'est qu'elle est fermée sur elle-même. C'est-à-dire que quand tu es à Douarnenez ou légèrement sur la côte, tu ne vois pas où elle s'ouvre vers l'océan. Et quand elle est calme, c'est impressionnant. On a l'impression d'être sur un lac, d'où ce texte. Quand la mer est lac, et apaise la baie. Quand le ciel se plaque sur l'horizon bleuté, il serait grand temps de se blottir une heure, dériver, rêver, sans rancune au cœur, sans rancœur aucune.
Il y a presque un petit accent verlainien là-dedans.
C'est un texte un peu plus classique, là. Cette écriture-là, il y a des fausses rimes, voilà, mais c'est, pour moi, c'est un texte d'apaisement, en tout cas. Et, alors peut-être qu'il faut retourner au classique pour trouver l'apaisement, je sais pas, je laisse la réflexion aux auditeurs. Eh ben, je vais faire plaisir aux sudistes en lisant un peu de Méditerranée. Retiré dans l'arrière-pays, je m'étonne que la Camargue, entraînée dans de longues chevauchées, me nargue. Le fleuve du sud est étonnamment glacial en cette fin janvier. Je m'ennuie et j'attends que surgissent des parfums, des pensées, des amitiés, et que ces respirations deviennent plus chaudes, plus vivantes, plus humaines. Elles doivent bien exister au-delà de la scintillante Méditerranée, dans ce pays d'eau qui la prolonge. Ou bien en amont, par-delà les montagnes que je ne connais pas. Il le faudrait, pourtant, car c'est bien là-haut que se trament les naissances. Je ne m'en formalise pas tant il me plaît d'attendre, d'avoir chaud, ou d'être vraiment vivant, ou plus humain, moi qui ne le suis jamais assez.
Merci bien pour cette lecture. Il s'agissait, je le rappelle, des poèmes extraits de Les Maritimes. Et j'aimerais maintenant que nous abordions cette aventure qui est d'écrire un livre à quatre mains. Les éditions Lamourier ont publié en 2015 un livre intitulé « Écrimoire » que vous avez écrit avec Marie-Hélène Bahin, qui est romancière, qui habite elle aussi la région nantaise. Alors, première question, comment avez-vous procédé? Comment est né ce projet? Est-ce que vous aviez déjà entamé un dialogue avec Marie-Hélène Bahin auparavant qui vous a donné l'idée de passer à quelque chose de plus fouillé ou de plus abouti sous forme de livre?
Alors, d'abord dire que Marie-Hélène Bahin est une amie. Et c'est important. C'est pas quelqu'un qui m'est inconnu au moment où on a décidé d'écrire. Donc, c'est une amie très profonde qui est une écrivaine, effectivement, et que j'ai publiée. En tout cas, j'ai suivi son travail d'écriture depuis qu'elle a publié son premier livre, que j'ai suivi, qui a été publié par d'autres, que j'ai publié. Mais au-delà de la relation éditeur-auteur, c'est aussi une relation profondément amicale, et c'est quelqu'un qui est essentiel dans ma vie. Écrire un roman à quatre mains, c'est d'abord faire confiance à la personne avec laquelle on travaille, donc on s'est fait mutuellement confiance, et il faut vraiment une force, enfin une profondeur de point de vue, en tout cas de sujet pour y parvenir. Je sais absolument plus comment l'idée est venue, à quel moment. Je crois que c'est moi qui l'ai lancée, mais je ne suis même pas sûr. Et pour vous dire aujourd'hui, en lisant l'écrimoire, et elle et moi, on arrive à se dire qu'on ne sait plus quel passage on a écrit l'un l'autre, pour vous dire l'osmose qu'il y a pu avoir au travers de ce travail d'écriture. La première idée, c'était se lancer un mot. Un des deux commençait à écrire et l'autre lui répondait à partir d'un mot. Voilà. Et on a fait ça sur quelques chapitres. Ça a donné un ensemble un peu disparate, assez inégal. Et puis Marie-Hélène m'a confié la mission de créer une unité à travers tout ça. Et je lui ai proposé une chose un petit peu remuée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui a écrit quoi. Parce que dans deux paragraphes différents, on peut penser, il peut y avoir deux écritures différentes, même si le lecteur ne le verra ou la lectrice ne le verra pas. C'est cette osmose qui est intéressante. Sujet de l'écrimoire, plutôt, exactement. C'est quelqu'un qui demande à une femme, aide-moi à écrire, je n'y arrive pas. Et entamons un dialogue pour que je parvienne à y arriver. Et en fait, c'est l'écriture qui se fait en même temps que la recherche d'écriture, quoi. Le résultat était la recherche de l'apaisement, quand même. Il y avait énormément de souffrance à ne pas savoir pourquoi on écrivait, que je n'y arrive pas. Alors, c'est peut-être que je n'y arrive pas à vivre, mais je n'arrive pas à écrire non plus. En tout cas, je n'arrive pas à écrire, pourquoi je n'arrive pas à vivre, quoi. Il y a tout ça derrière. Si, le résultat, à la fin, on est arrivé, tous les deux, à un vrai apaisement.
Le titre lui-même, je le trouve formidable. Vraiment réussi, écrimoire. Alors, on y entend écritoire. Mais ce n'est pas la boîte qui contient crayon et stylo sur laquelle on peut écrire, ni même la pièce où l'on écrivait dans les monastères. On entend « moire » comme un reflet de miroir. On entend « moi » comme si on pouvait s'attendre à une écriture de soi. On pourrait même penser à « écrémer », à « l'écumoire » qui indique que nous ne lirions que l'essentiel. Un texte débarrassé de son gras, de sa mousse. Comment on choisit un titre comme ça?
Je vous disais tout à l'heure qu'à chaque chapitre, on se donnait un mot. Et me revient maintenant que chaque mot qu'on se donnait était un mot inventé, était un néologisme. Et donc il jouait, c'était des mots valises d'ailleurs généralement. Forcément, le titre devait reprendre un petit peu l'idée qui a amené l'écriture du livre. L'écrimoire, c'est venu d'elle, c'est venu de Marie-Hélène. Elle m'a la proposé un jour et non, entre le moi et le toi, il fusionne à un moment, hein, c'est clair. Hein.
Alors, le 4 de couverture de ce livre dit ceci. Une femme et un homme dans un jardin. Ils se parlent et réfléchissent à leur relation. D'entrée, on sait que leur conversation ne sera pas futile. Le face-à-face à mots tendus auquel nous invitent les deux narrateurs les penche dangereusement l'un vers l'autre, l'un contre l'autre. Ils s'affrontent, s'écrivent, se cherchent, chacun au bord de lui-même, en limite d'équilibre. Alors, bon, évidemment, homme, femme, masculin, féminin, est-ce que vous avez, peut-être même inconsciemment, cherché à percer, à résoudre cette difficulté qu'éprouvent parfois hommes et femmes à se comprendre ? Avez-vous imaginé une manière qui serait de se perdre pour rejoindre l'autre et au-delà ? Quelle est votre philosophie de l'altérité, si on peut dire des gros mots ?
Je ne sais pas si j'arriverai à donner ma philosophie de l'altérité, mais notre éditeur, Lamourier, nous a dit à un moment, alors en plus il s'appelle Lamourier, il nous a dit, mais en fait c'est un roman d'amour que vous avez créé. C'est un homme et une femme qui s'aiment et qui vont se retrouver. Et pour nous, et pour Marie-Hélène et pour moi, c'était absolument pas ça. Alors, sauf si on parle d'amour, alors on parle pas d'amour entre un homme et une femme, on parle d'amour dans un sens un peu plus large, c'est-à-dire l'amour d'un être pour un autre être, et peu importe, sous toutes ses formes différentes. Pour moi, c'est un grand roman d'amitié, en fait. Pas d'amour, d'amitié. Ou de confiance entre deux êtres qui arrivent à se dire des choses aussi profondes, aussi intimes, qui se cherchent effectivement, qui se taquinent un petit peu, qui vont titiller l'autre pour qu'il avance. On va titiller l'autre, on va l'embêter l'autre pour qu'il avance. Et c'est fait avec un amour extrême. Alors, c'est pas l'amour entre un homme et une femme, c'est l'amour absolu qui doit être entre tous les êtres, tout simplement. C'est, s'il y a une définition de l'altérité, c'est comme ça que je la définirais, en tout cas.
Alors, on va vous écouter lire quelques extraits.
Ton jardin, toujours, d'où naissent les saveurs et les souvenirs qui font les histoires et les livres. J'y revenais après plusieurs semaines d'absence durant lesquelles j'avais essayé, tant bien que mal, de rassembler tous les détails de nos rencontres. Je m'étais posé sur chacun d'eux, les vêtements que nous portions, les plats que tu m'avais préparés, les danses improvisées et soudaines, les emportements, les mots rieurs. Dis-moi nos dires, nous disions-nous, tous ces éléments de récit qui se construisaient et que je taisais encore trop. Je retrouvais ce jardin d'après-saison où rien ne laisse envisager le déclin à venir. À peine ça et là de timides taches d'épuisement dans les feuillages encore touffus. Une odeur plus humide aussi. J'y revenais comme si c'était de là que pouvait surgir notre part d'importance. Comme si chaque arbre, chaque fleur, chaque plante, chaque brin d'herbe détenait en lui les songes et les mystères qui nous feraient vivre. Je le savais, tu me l'avais assez dit, il fallait que je rentre en chacun d'eux, que je m'y installe, m'y confonde. Ce jour-là, lorsque j'ai ouvert la porte de la salle à manger qui offre ton jardin, j'ai fermé les yeux et j'ai vu toute l'étendue, toute l'immensité des choses qu'il me restait à découvrir. J'en ai pris peur. Mais tu étais derrière moi, tu me suivais, me protégeais du pas mal posé. Je ne pouvais plus reculer. Nous avons longé les allées, tu caressais les branches qui débordaient sur notre passage. C'était une caresse étrange, lourde, qui se déplaçait lentement le long du feuillage, puis, un peu plus vivement, qui empoignait chaque feuille avec une force maîtrisée, juste suffisante pour en capturer la sève sans avoir à la froisser. Ou alors, tu te laissais fouetter le visage en passant. Et moi, j'avais plutôt tendance à les éviter, les effleurer, à les cueillir d'un simple coup d'œil. C'est seulement lorsque nous sommes parvenus au bout du sentier, là où la clôture sépare le jardin du pré, que je l'ai vu. J'aurais dû le remarquer dès le seuil, tellement il contrastait avec le reste, mais trop occupé à te regarder régner sur tes terres, je ne lui avais prêté aucune attention. Et pourtant, au milieu de la pelouse, trôné, un pauvre tronc déraciné, pourri, creusé, noué, posé à sa base sur deux béquilles de bois tendres et légèrement courbées en son centre pour s'élancer faiblement à son extrémité. Un corps d'homme allongé, le buste et la tête relevés, tendant une main ouverte vers le ciel comme désespéré. Tu m'as dit, c'est mon arbre de Judée.
Merci, merci beaucoup. On va passer au livre paru aux éditions Lanskine, intitulé « Deux, trois choses sans importance ». Alors, pourquoi d'abord ce titre aux accents péjoratifs ? Craignez-vous donc de vous prendre au sérieux, Thierry Baudin-Hulin ?
Non, je ne crains pas de me prendre au sérieux, mais souvent, je m'interroge sur la vacuité de l'écriture. Et qu'est-ce qui est important? Voilà, on pourrait parler de la profusion des livres qui sortent sur le marché et dire qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans. Alors, on en tirait peut-être un ou deux livres sur les milliers qui sortent. C'est savoir quelle importance on donne à l'écrit. Oui, alors c'est pas de la fausse modestie, mais qu'est-ce que mon écriture ou les quelques pensées que je peux donner à travers ce livre peuvent apporter de plus aux autres lecteurs, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'apporte à moi quelque chose de plus. Alors, est-ce que je suis le seul lecteur de mon œuvre? Point d'interrogation.
Alors non, certainement pas, certainement pas. Puis il y a des choses qui vont toucher les uns les autres à un moment précis de leur histoire. Ils vont tomber sur ce livre-là à un moment donné, et ce sera ce livre-là qui sera important pour eux à ce moment-là. Et puis dans 15 ans, ils en trouveront un autre, et etc. Donc, non, moi je suis toujours assez étonnée quand on rencontre comme ça nos publics, de voir l'impact et l'importance que ça peut avoir eu, ces 30 secondes dans leur vie, ou ces 3 heures, ou ces 3 mois, ou ces 3 ans, mais ça a quand même bouleversé quelque chose. Ce n'aura pas été vain. Alors la présentation de votre livre sur le site des éditions Lanskin dit ceci. Pensée fugace, flash de vie, parole volée. Quel intérêt leur accorder? Deux, trois mots sans importance est une suite d'aphorismes poétiques qui disent autant l'incertitude et la vanité de l'existence que la beauté et la fulgurance du monde. Au cœur de l'intime, ces mots-là interrogent aussi le langage, comme pour mieux se rapprocher de l'essentiel. Et dans ce livre, on lit ceci: la recherche désespérante de l'exactitude de soi. Pour dire quoi? Quoi de plus? Alors moi, quand je lis des petites choses comme ça, bon, ça c'est ma déformation et puis l'enthousiasme que j'avais eu à lire Émile Cioran, adolescente, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de cet Émile Cioran-là en vous, Thierry Baudin-Huillain, celui des syllogismes de l'amertume, par exemple? Ou bien alors, vous nous rappelez le vanitas vanitatum et omnia, vanitas que l'on trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste? Ce sage qui, après avoir exploré chaque aspect de la vie terrestre, expose la conclusion à laquelle il est arrivé que tout est vanité et poursuite de vent. Alors quel parcours est le vôtre? Quelle observation du genre humain faites-vous à travers ces petits aphorismes?
Cette écriture-là, cette écriture des aphorismes, qui sont marqués dans le temps de mon histoire, marque effectivement l'interrogation d'un homme qui s'interroge sur sa propre existence, qui s'interroge sur l'écriture, et en s'interrogeant sur l'écriture, il s'interroge sur sa propre existence. Et c'est bien à un moment donné de sa vie où il se dit que tout est vanité. Rien n'est tout et rien n'est vanité. Je pense que c'est le rôle de l'écriture. Il y a un côté Cioran à travers ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un échec si on ne passe sa vie à n'écrire que des choses telles que Cioran les a écrites. Et ce n'est qu'un passage dans son avancée. Après, je sais que c'est des choses qui ont été écrites de mémoire entre 2010 et 2016.
Le livre est paru en 2018.
Et bien voilà, c'est à peu près ça. Et je me souviens même que dans une année, je crois que c'est l'année 2013, et j'ai écrit un aphorisme par jour. Je m'étais dit un aphorisme par jour. Voilà, et ce sont des périodes de ma vie où effectivement je suis en pleine interrogation. Aujourd'hui, ils ont véritablement un sens parce que je sais qu'ils font partie de mon avancée. Et cette écriture-là, qui effectivement peut être à certains moments assez pessimiste, ben m'ont fait avancer et me permettent de dire aujourd'hui que ce n'était qu'une étape sur le chemin de ma vie, tout simplement. Ce n'est que l'écriture de la recherche d'apaisement.
Donc, je vous rappelle que vous écoutez Les Mots d'Azur ou la poésie en direct et que je suis avec le poète-éditeur Thierry Baudin-Huillain et qui va nous lire maintenant, eh bien, des petits extraits de ces deux ou trois choses parues aux éditions Lanskin.
Ce que je sais, et je sais que je sais peu, me suffit. La faiblesse de croire que ce que je pourrais apprendre d'autres ne m'apporterait rien de plus. Une étoile filant vers quoi? Une étoile fuyante. Suis-je unique ou universellement uniforme? En quête de soi, en quête sur soi. Cette panique soudaine à la sonnerie du téléphone, il va falloir répondre. Humilité de l'humilié. À degré d'exigence trop élevé, suite de déception assurée. Au réveil, toujours la même question. Serais-je bien aujourd'hui? La tendance que j'ai à rendre immédiatement passé l'événement que je viens de vivre, fut-il agréable ou pas? Quasiment oublié, jamais regretté. Écorché vif à force de ne pas soigner ses plaies. Trois attitudes orgueilleuses. 1. Penser que l'on raisonne plus brillamment que l'autre. 2. Estimer que l'on ressent plus profondément les choses. 3. Croire que l'on souffre mieux.
Alors dans la présentation que je lisais de ce livre, on dit qu'il y a une interrogation sur le langage. Et en quoi interroger le langage nous rapproche de l'essentiel, ainsi que la présentation de votre livre l'affirme. Comment interrogez-vous le langage et quel est donc cet essentiel dont on s'approche grâce à vos réflexions?
Je ne sais pas si je vais répondre précisément à la question, mais je sais que la réflexion dans cet ouvrage est aussi une réflexion pour dire que le langage n'arrive pas à exactement exprimer ce que l'on ressent. Que ce soit ses doutes, ses incertitudes, même peut-être à un moment, pourquoi pas, ses joies et ses plaisirs. Et que du coup, on tourne autour des mots, on tourne autour des expressions, on tourne autour même des sonorités, des sons, voilà, pour essayer d'arriver au plus exact de ce que l'on veut dire. On essaie, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais parfois on touche à la faiblesse même du langage qui ne parvient pas à dire l'exactitude de ce que l'on est ou de ce que l'on ressent.
Et ça, je pense qu'il n'y a pas un seul écrivain qui ne se soit pas tapé la tête dessus.
Un des aphorismes, je l'ai sous les yeux là, qui dit « tu es aux abois, alors abois ». Voilà, rien que ces mots-là qui sont les mêmes, bah, pourquoi ce sont exactement les mêmes mots en termes de sonorité et quelle pensée derrière on arrive à dire à travers une formule de ce type.
Vous avez écrit un petit livre intitulé « Savoir les différences », paru, je le rappelle, aux éditions Pneumatiques, qui le présente ainsi. C'est un livre dans lequel on se demande si on dit exactement ce que l'on veut dire. Donc voilà, on revient dessus. Un livre dans lequel on lit ceci. Saisir la différence entre le vrai et le vraisemblable, le possible et le probable, l'impossible et l'improbable, le peut-être, le pas sûr, le sans doute et le sans aucun doute. Est-ce que vous avez envie un petit peu de développer ?
Alors déjà, vous avez dit savoir les différences, c'est bien saisir les différences. Ah, ouais. Mais c'est pas grave, mais c'est important. On rejoint la discussion d'avant, hein, c'est clair. C'est pas qu'une question de mots, c'est aussi une question de sensations, de notions, de concepts, etc. On a l'impression parfois qu'on parle de choses qu'on connaît mal ou peu ou pas bien. On est dans un monde aussi où la nuance commence à manquer. Et moi, j'ai besoin de savoir la nuance entre une jonquille et un narcisse, quoi. Et je suis pas sûr de bien savoir la différence entre les deux. J'ai besoin de savoir la nuance qui peut y avoir entre, à un moment, je dis, entre la justesse et la justice. Voilà, qu'est-ce qui est juste? Et comment la justice, conçoit le juste? Ça m'interroge énormément, quoi. Et on peut faire ça sur plein d'autres choses. La nuance des couleurs, le violet et l'indigo. Vous savez, la différence entre le violet et l'indigo, moi je sais pas. Et pourtant on me dit que l'indigo c'est du violet, mais non, il y a une nuance. Et s'il y a plein de mots pour dire les choses, essayons de bien savoir ce que disent profondément ces mots. Parfois, on les emploie à tort et à travers. Et moi, j'ai besoin d'exactitude pour mieux comprendre le monde.
Sans trop analyser ou quoi, mais je pense qu'il y a aussi dans cette notion de vocabulaire, de mots, de langage, on extrait de quelque chose de vécu dans la chair, on l'extrait, on l'abstrait, et obligatoirement là, il y a perte dans le partage, dans la sensation, dans... Voilà, comment remédier à ça, quoi, en fait, c'est comme une forme d'évaporation. Moi, c'est un peu la réflexion que je me fais. Est-ce que vous voulez parler de votre roman paru aux éditions Lunatique, intitulé Impur
Ah oui,
hasard?
tu fais la totale.
Ben, pourquoi pas? Pour moi, le mot hasard renvoie tout de suite au mot probabilité, au mot contingence, au mot nécessité et à la notion de libre arbitre, de non-déterminisme, qu'il soit religieux, culturel, social, divin, etc. Alors dites-nous quelle était donc votre intention en écrivant ce roman et ce qui se cache sous ce titre, Impur hasard.
Et c'est assez récent, je suis passé d'un moment où j'étais persuadé que tout était hasard. Du coup, ça me perturbait que tout soit hasard. Parce que j'avais l'impression au fond de moi que j'y croyais pas. Et qu'il y a effectivement un certain déterminisme. Et je suis passé aujourd'hui à une sensation que rien n'est hasard. Et que du coup, on est mené par des forces qui vont au-delà de nous. Que ça soit dans des vies intérieures où on est dans un continuum d'être, alors on appelle ça l'âme. Dès lors qu'on a cette sensation que l'âme existe et qu'elle est éternelle, on n'a plus tout à fait la même vision du monde. Et on a la sensation, effectivement, que notre vie n'est pas faite que de hasard, qu'on se construit et qu'on recherche cette construction à partir de choses qui sont provoquées par nous-mêmes. Ouais, c'est comme ça que je dis les choses. Alors, un pur hasard, eh ben non, il n'y a pas de pur hasard, et on peut imaginer un système dans un monde qui est peut-être pas notre monde rationnel. On peut imaginer un système où si on joue au dé, on lance le dé 10, 20, 30 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois, on n'arrive jamais à tomber sur le 1, par exemple. C'est l'objet du pur hasard. On peut imaginer que ça. On peut imaginer ça. On nous fait croire que le hasard, c'est si on joue le dé 10 000 fois, on va avoir autant de 1 que de 2, que de 3, que de 6, que de 5, que de 6. Eh ben, on peut imaginer un hasard où ce n'est pas exactement ça. Donc, on est dans une autre réalité. On va être dans un autre espace, dans un autre temps. On va être dans un autre espace-temps. Et voilà. C'est un peu tout ça qu'il y a derrière. Maintenant, le livre est beaucoup plus ludique. Il pose quelque part ces questions.
Alors, c'est pas pour vous piéger, mais la tradition de l'émission veut que mon invité partage avec les auditeurs une chanson, un morceau de musique qui est représentatif de ses goûts ou bien de ce qu'il écoute pendant qu'il travaille ou qui a une signification particulière pour lui. Alors, Thierry Baudin-Huillain, quel serait votre choix et pourquoi?
Un petit peu moins maintenant, mais je me suis plongé dans la chanson française dans mes années d'adolescent, puis de jeune adulte, et un petit peu plus tard, même si aujourd'hui je suis un petit peu moins ça. Pour moi, la chanson des chansons, ça reste Avec le temps de Léo Ferré. Elle dit tout de l'homme, de l'humanité, de l'existence, de la crainte de la mort, de l'amour. Enfin, je trouve que c'est la chanson la plus universelle qu'il puisse y avoir, c'est Avec le temps de Léo Ferré.
Eh bien, on va écouter Avec le temps
Mon Dieu.
de Léo Ferré. Voilà.
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit avec le temps. S'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir. Quand la tendresse s'en va toute seule, avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas, les mots des pauvres gens, ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
Vous venez d'entendre « Avec le temps » de Léo Ferré, choisi par mon invité le poète et éditeur Thierry Baudin-Hulin, responsable des éditions L'Œil ébloui, pour qui ce n'est plus un secret pour personne, Georges Perec est un auteur important. Tellement important qu'une collection lui est désormais consacrée. Dire son Perec. On va passer à votre activité maintenant d'éditeur, mais pour faire une sorte de transition, est-ce que vous voyez une différence fondamentale entre les deux activités, celle de l'écrivain et celle de l'éditeur? Et pour l'exprimer autrement, et pour préciser ma pensée, est-ce que vous avez l'impression de faire œuvre complète en vous adonnant aux deux activités?
On a commencé toute l'émission en parlant de cette part auteur pour arriver à cette part éditeur. Alors moi, je considère que je suis plus un éditeur qu'un auteur. Je m'appuie sur le texte des autres et j'ai envie de travailler avec les autres leurs textes. J'ai envie de valoriser le texte des autres, de présenter, etc. Parce que autant j'aide quelqu'un, et ça c'est important pour moi, à l'écoute des autres, mais aussi il m'apporte quelque chose. C'est-à-dire que être éditeur, c'est aussi, ça apporte au savoir-être, quoi, au savoir-vivre, quoi. Ça nous apporte, moi en tant qu'éditeur, ça m'apporte forcément quelque chose et ça me fait avancer. Je ne publierai pas de textes qui ne me font pas avancer. qui ne me parle pas, qui ne touche pas le plus profond de moi-même, et qui ne me crée pas des choses qui me permettent effectivement d'avancer dans ma vie, ou qui apportent un plus en tout cas à ma vie. Et effectivement, à la limite, pour moi, c'est la première étape de mon cheminement personnel. C'est travailler avec les autres leurs propres textes et apporter aux autres ce que je peux, l'accompagnement que je peux donner. Et là, ça, c'est cette part d'altérité dont on parlait tout à l'heure, que j'aime offrir aux autres. Et en même temps, je m'y retrouve, il y a aucun souci. Mais ça, j'aime quand j'apporte aussi quelque chose aux autres. En même temps. La part auteur, elle est plus discrète, elle est en parallèle parfois de cette activité d'édition. Autant mon activité d'édition depuis 25 ans, elle est quotidienne, autant mon activité d'écriture, elle n'est que par période, elle ne vient que de temps en temps, il y a un besoin, un moment qui se crée. Ce que je me dis, après, voilà, l'avenir le dira, mais ce que je me dis qu'à un moment, je vais arrêter mon activité d'édition, on va parler de la collection Pérec après, qui est peut-être ma dernière expérience éditoriale, et peut-être que progressivement, à la fin de ma vie, je me consacrerai entièrement à mon activité d'auteur. Mais c'est un chemin, effectivement, à la fois parallèle, qui de temps en temps s'entrecroise. Du coup, en vous répondant, ils sont incroyablement liés.
Je connais la réponse, mais je vais vous la poser quand même. Comment procédez-vous? Rencontrez-vous d'abord les auteurs, vous apprenez à les connaître, puis vous leur demandez un livre, ou bien vous recevez des manuscrits d'auteurs que vous ne connaissez pas et que vous découvrez?
Dans mon activité d'éditeur que j'ai commencé juste avant les années 2000, il y a deux grandes parties. Il y a une première partie où j'avais monté une maison d'édition avec des amis qui s'appelait Les Scarbilles, et d'autres projets collectifs, associatifs, étaient de ne publier que des premiers romans. Donc quand on décide de ne publier que des premiers romans, on reçoit beaucoup de manuscrits, on lit beaucoup de manuscrits, et on fait un choix parmi les manuscrits que l'on reçoit. On a mené cette belle expérience pendant une douzaine d'années, les uns les autres, et puis pour des raisons diverses, on a arrêté. Peut-être dans les raisons diverses, il y a celle aussi de lassitude à lire du manuscrit, donc les textes des autres tous les jours. Quand j'ai créé L'œil ébloui, 2-3 ans après avoir arrêté Les Scarbilles, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que c'est devenu un projet très personnel, où tout seul, j'ai décidé de monter ma maison d'édition, et mon objectif à ce moment-là, c'était non pas de poursuivre l'aventure de Les Scarbilles, mais de faire le contraire, c'est-à-dire d'aller moi-même à la rencontre des autrices et des auteurs que je souhaitais publier. Soit des gens que je connaissais, soit des gens que j'avais rencontrés de façon moins profonde, soit des gens que je ne connaissais pas, dont j'appréciais l'œuvre, qui, les autrices ou les auteurs, je voulais travailler. Donc c'est moi qui suis allé à la recherche, effectivement, de textes à l'inverse de ce qu'on faisait dans Les Scarbilles. En tout cas, sur L'œil ébloui, première partie, c'est avant tout le souhait de rencontrer des gens et de travailler avec, grâce à ces rencontres. Je ne conçois pas mon métier d'éditeur sans avoir une relation profonde, plus qu'amical, pas seulement amical, avec les autrices et les auteurs que je publie.
Dans votre catalogue, peut-être un titre emblématique, symbolique de ce que vous cherchez à faire, il s'agit de l'abécédaire d'un cœur rebelle, dans lequel tout commence par l'amour de l'art. Vous pouvez en dire peut-être un peu plus sur vos ambitions en général et sur ce livre en particulier?
Alors, ce livre en particulier, c'est une belle rencontre. C'est typiquement le genre de livre où il y a eu une belle rencontre. C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Dorota Wagzak, l'autrice, est une belgo-polonaise, à la fois belge et polonaise, d'origine polonaise devenue belge. Et c'est tout bêtement une rencontre sur un salon, à la foire du livre de Bruxelles. Mais c'est pas une rencontre qui vient, voilà, on s'est vu que cette fois-là, et puis on dit, ah oui, on fait un projet ensemble. Non, c'est ensuite une belle rencontre, une correspondance qui s'est suivie pendant plusieurs années, des projets dont on parle, de ce qu'elle fait, elle est artiste, elle écrit, elle peint, j'aime ce qu'elle fait. Et au bout de 3, 4 ans, voilà, à un moment, le projet de l'abécédaire qui arrive, qui est un mélange à la fois effectivement d'un abécédaire qui joue sur les mots. Alors, quand je vous dis que Dorota Valzac est d'origine polonaise, c'est que sa langue française n'est pas sa langue d'origine. Donc, elle va utiliser la langue française et jouer sur la langue française, ce qui est très intéressant parce que c'est pas la langue, sa langue d'origine. Et en plus, elle va peindre avec une petite branche de groseillier trempée dans l'encre, quelques personnages, sous forme de lettres, des femmes avec un, et c'est assez sensuel d'ailleurs aussi, et c'est très agréable, le mélange de tout, de la sensualité des dessins jusqu'au jeu sur les sonorités dans les mots. Bref, un projet très beau et qu'on fait effectivement ensemble. Et je dis bien qu'on fait ensemble, on conçoit le livre ensemble. C'est comme ça que je fais les livres avec les autrices ou les auteurs, avec les personnes qui écrivent. Je ne le fais pas tout seul dans mon coin et je propose et on doit valider ou pas. Et donc on l'a fait véritablement ensemble. Oui, c'est en tout cas symbolique de ma démarche. Alors là, c'est une rencontre qui s'est faite sur un salon. Là, c'est pas assez... Elles sont assez rares, mais elles sont puissantes à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais...
Bah, il me semble que si, quand même. Il y a un autre livre, qui a attiré mon attention dans cette collection. Il s'agit du livre de Jean-Paul Andrieux, intitulé « Le rêve d'Okuzai ». Et je rappelle aux auditeurs qu'Okuzai est cet artiste japonais, peintre, dessinateur, graveur, du XVIIIe siècle, qui a aussi écrit des récits populaires. Les œuvres les plus célèbres sont certainement les 36 vues du mont Fuji, qui sont en réalité un ensemble de 46 estampes, parmi lesquelles la grande vague de Kanawaga. Okuzai a beaucoup frappé les peintres français, européens de l'époque, que ce soit Sisley, Gauguin, Monet, Van Gogh, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, ma curiosité me pousse à vous poser cette question. Qui est Jean-Paul Andrieux et quel est donc le rêve d'Okuzai?
Alors, il y a bien deux questions différentes là. Jean-Paul Andrieux, c'est une magnifique rencontre. C'est quelqu'un qui un jour sur un salon aussi. On est au Salon du Livre de Paris. Je suis encore avec mes amis de l'Escarbille. On présente les livres de l'Escarbille. Il arrive sur notre stand. Je crois qu'un jour, le premier jour, il achète quasiment tous nos livres. Et le lendemain, il revient. Il a quasiment tout lu ou quelques-uns. Il va nous parler de chacun des livres qu'on a publiés à l'Escarbille. Mais il va nous en parler avec une sensibilité extrême, une connaissance infinie de la littérature, ou en tout cas de la langue, de l'écriture, de la littérature. On est complètement fasciné par cet homme qui nous parle avec toute sa sensibilité de ce qu'on a fait. Donc on le sent très proche de nous. Et on va même à un moment lui proposer effectivement de nous écrire ce qu'il dit de tous nos livres, l'Escarbille. Voilà. Ce qu'il a fait. Et puis bah, les relations durent. Et je sais que quand j'ai créé L'Œil ébloui, il savait que je créais L'Œil ébloui. Il m'a écrit pour L'Œil ébloui que je commençais, Le Flacon, son roman, que je décide tout de suite de publier, vu parce que c'est quelqu'un qui écrit évidemment très, très bien. Le rêve de Cousin, c'est dans la continuité de cette relation amicale et profonde avec cet auteur, où à un moment, il voit ma collection poésie, où on mêle poésie et illustration, où il y a toujours un ou une poétesse ou un poète avec un illustrateur, tristeur. Et je lui dis, bah, écoute, il y a quelqu'un que j'aime bien, là, qui s'appelle Marc Bergère, qui fait des dessins pour notamment les éditions Soc et Foc, hein, chez nous, dans les Pays de la Loire, qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement. Et je dis, bah, écoute, propose-moi un projet avec Marc Bergère. Voilà. Je voulais un projet unique avec un auteur, un illustrateur. Et je voulais que ce projet soit commun, véritablement commun. Et quelques mois plus tard, il me rappelle, il me dit, bah, écoute, on s'est rencontré avec Marc, on a lié amitié, et on est tombé d'accord pour faire ce rêve de Kouzaï, lui, illustration. Alors, le rêve de Kouzaï, c'est la réécriture, on va le dire comme ça, c'est la réécriture d'une célèbre postface donc, de Kouzaï, où, en gros, il dit, je n'arriverai jamais à la perfection, ou alors, éventuellement, quand je serai un peu plus âgé, et encore, ou alors peut-être quand j'aurai 110 ou 120 ans. Et du coup, oui, il est assez symbolique, effectivement, de toute cette réflexion que j'ai, que d'autres ont sur l'écriture ou la littérature. Comment arrive-t-on à un moment à la perfection? et qui hante le travail d'écriture et de création en général.
Très belle histoire. Avec déjà 4 titres parus, dont les auteurs sont François Bon, Yokna, Jacques Benz et vous-même, Thierry Baudin-Huillain. Et puis, 3 autres titres à paraître à la fin de l'année pour arriver jusqu'à 53 titres. Alors maintenant, vous allez nous parler de ce projet, de cette collection et de votre trajet Pérec.
C'est à la fois un aboutissement et un commencement. C'est un aboutissement d'un travail d'édition, l'Escarbie, l'œil ébloui avec ses fictions, ses récits intimes, ses romans, sa poésie. Et puis aujourd'hui, cibler ce travail d'édition sur un objet bien précis, qui est Georges Perec, premièrement. Deuxièmement, l'aboutissement d'un travail d'admiration que j'ai effectivement pour un écrivain qui est Georges Perec, que j'ai découvert à 17-18 ans, et qui est un choc pour moi. Entre parenthèses, L'œil ébloui, le nom de L'œil ébloui est un clin d'œil déjà à Georges Perec. C'est un ouvrage de photographie d'une photographe américaine qui s'appelle Cushy White, et Perec en a écrit une magnifique préface sur l'art de l'illusion, le trompe-l'œil, etc. Donc en créant L'œil ébloui, c'était mon premier clin d'œil à Perec, sans savoir que j'allais créer 10 ans plus tard cette collection. Admiration d'un auteur, passion pour l'édition, je mêle les deux. Et puis il y a ce troisième pilier qui est l'aboutissement d'un travail personnel. Et aujourd'hui, ce cheminement, il doit aboutir là-dessus, il doit me faire avancer personnellement encore plus. En allant vers cet auteur qui m'a toujours marqué et comprendre pourquoi il m'a marqué. Et pour cela, je vais demander aux autres de m'expliquer, de m'aider à comprendre pourquoi Georges Perec me hante et me marque autant. J'ai bien quelques idées, mais comme je sais que je ne suis pas le seul à aimer de cette façon-là Perec, moi j'aimerais bien que les autres m'en parlent, et du coup allons-y. Donc je vais créer cette collection, où j'essaye de jouer ou lipien ou pérequien, et je vais partir d'un chiffre emblématique chez Perec, que je trouve emblématique chez Perec, qui est le 53. Et le plus simple, c'est l'évidence, l'allusion la plus simple est le fait que 53 jours est le dernier livre qu'il a écrit, mais qui a été publié de façon posthume parce qu'il est inachevé. On va partir de ce chiffre emblématique et penser une collection de 53 livres, de 53 pages, et je demande à 53 personnes, artistes, parce que c'est pas forcément que de l'écriture, voilà, j'aimerais bien des artistes plasticiens aussi, de me dire le rapport personnel qu'ils ont à l'œuvre de Georges Perec.
Est-ce qu'on peut entendre un extrait de votre trajet Perec ?
Dans Trajet Perec, donc, je me suis permis d'écrire le deuxième de la collection. Je voulais poursuivre en disant, voilà ce que je lance. Alors moi, éditeur-auteur, voilà ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie et pourquoi je crée cette collection. C'est en 53 fragments, mon ouvrage, et le 41e fragment s'appelle Souhait. J'aimerais bien que l'on me propose une histoire, une rencontre, un témoignage, une lecture, une interprétation, un souvenir, un clin d'œil, un dialogue, un poème, un très long poème, du son, de l'image, des dessins, une bande dessinée, des fragments de vie, un roman, une critique, un abécédaire, un mode d'emploi, un événement, un hommage, de la broderie, un collage, un jeu, du théâtre, une entrevue, du désordre, des mots et des lignes qui se croisent, une invention, une invitation à lire.
Merci Thierry Baudin-Huillain. Mais il me semble que nous nous acheminons vers la fin de l'émission et le temps n'est pas élastique. Donc il me reste à vous remercier chaleureusement de m'avoir accueilli et d'avoir répondu à mes questions, Thierry Baudin-Huillain. Je suis certaine que les auditeurs auront apprécié vos réponses et qu'ils auront été touchés par vos mots. C'était Les mots d'azur ou la poésie en direct. Je vous retrouverai le mois prochain pour une nouvelle émission avec un nouvel invité afin de faire escale et marquer une nouvelle étape sur notre parcours en poésie. Surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller chez vos libraires commander les livres des éditions L'Œil Ébloui. Je vous retrouve quant à moi le mois prochain pour une nouvelle aventure dans ce paysage de la poésie francophone. Et d'ici là, chers auditeurs, portez-vous bien. Au revoir.